voit derrière. Et ça donne de l'ampleur, ça donne de la présence.
C'est vraiment encourageant. Et je me dis toujours, c'est qu'un avant-goût des choses à venir. Parce que quand on sera dans le ciel à chanter les louanges du Seigneur, il y aura plus encore de monde et ça devrait être impressionnant. Bien. Ce matin, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous vous êtes déjà battu physiquement? Levez les mains. Bon. Eh bien, c'est pas bien du tout. Ce n'est pas bien. Voilà. Et alors? Eh bien, moi aussi, je me suis déjà battu. Ouais, ça m'est arrivé. Il y a longtemps, hein, je vous rassure. Et c'était au collège. Il y avait un gamin de ma classe qui s'en prenait à un autre, un plus petit. Il s'amusait à lui donner des baffes sur la tête. Et l'autre n'osait même pas répondre. Alors ça m'a révolté, évidemment. Et j'ai voulu lui manifester ma profonde désapprobation. Mais comme je ne savais pas le dire calmement, et que j'étais vraiment indigné par son comportement inacceptable, et que ça m'a mis en colère, il ne faut pas me mettre en colère, eh bien je l'ai bousculé, en lui criant d'arrêter, on en est venu aux mains, jusqu'à ce que je me prenne pour un catcheur, que je le soulève et que je le fasse tomber par terre. Il s'est relevé un peu sonné, et puis il est parti sans rien dire. Il m'a regardé de travers tout le reste de l'année, mais il a pu embêter le petit. Et c'est pas l'épisode le plus glorieux de ma vie, je vous rassure. Et même à l'époque, déjà, j'en étais pas très fier. Et aujourd'hui, je me dis, mais quel gamin stupide. J'aurais pu le blesser, j'aurais pu même pire. J'étais jeune, j'étais bête. Demandez à Fabienne, je suis resté très jeune. Et donc, j'en étais déjà pas fier à l'époque parce que je me considérais déjà comme chrétien. Moi aussi, je suis né dans une famille chrétienne. Je suis en seconde génération. J'étais bien sous tout rapport. Je lisais la Bible tous les jours. Je connaissais les valeurs de l'Évangile. Je savais très bien que Dieu nous demande d'être paisible, bienveillant, de ne pas se laisser aller à la colère et surtout pas à la violence. Et j'ai fait tout l'inverse. Allez, on va dire que j'ai le syndrome de Zorro et que je vole au secours du faible et de l'opprimé. Mais ce n'est pas une excuse. C'est pas une excuse. Et donc, là non plus, ce n'est pas bien du tout. Et pourtant, il y a ce passage dans la parole où l'apôtre Paul nous dit « J'ai combattu ». Alors, est-ce qu'on a le droit de se battre ou pas? C'est dans 2 Timothée, chapitre 4, à partir du verset 7. Et c'est ce grand texte dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. Donc, verset 7. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. C'est tout. C'est un grand texte, pas tellement par la taille, mais par son importance fondamentale. Pour moi, ça résume vraiment toute la vie avec le Seigneur. Toute une vie passée au service du Seigneur. Tout ce que le Seigneur nous demande. Alors, de quoi s'agit-il? Quel combat on doit mener? Comment doit-on se battre? Contre qui? Pourquoi? Qu'est-ce qui est en jeu? Et l'apôtre Paul prend souvent l'exemple du combat, du soldat, du sportif qui veut remporter la victoire, notamment dans les lettres à Timothée. Timothée, c'était un jeune disciple, un jeune chrétien. Ça tombe bien, il y a plein de jeunes, c'est merveilleux. Donc il était jeune, donc il était inexpérimenté. Personne ne proteste. Vous êtes sage, c'est bien. Lui, il était plein de zèle, il était prometteur, plein de ressources. L'apôtre Paul voyait vraiment en lui quelqu'un qui allait être même son successeur. Mais il avait besoin de lignes directrices. Il avait besoin d'assurance. Il avait besoin de puissance pour proclamer avec assurance l'Évangile. Et l'apôtre Paul lui donne l'exemple du combat. Il faut être un soldat. On voit ça dans 1 Timothée au chapitre 1 et au verset 18. Le commandement que je t'adresse, c'est Paul qui parle à Timothée. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, Il y a tout un contexte. C'est que d'après elle, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. C'est un commandement, c'est un ordre. L'apôtre Paul n'est pas dans la diplomatie, hein, pas dans l'enrobage, c'est direct, c'est cash. On voit ça aussi dans 1 Timothée 6, au verset 11. Pardon. Pour toi, homme de Dieu, il parle de Timothée encore, fuis ces choses, toutes les choses du monde, tout ce qui peut l'attirer, tout ce qui peut le détourner de Dieu. Fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession de foi en présence d'un grand nombre de témoins. Et ça, je pense que c'est ce qu'on pourrait vous dire à tous les jeunes là au fond de la salle. Mais voilà, fuyez ces choses, les choses du monde, tout ce qui peut vous piéger loin de Dieu. Et puis recherchez ce que Dieu aime. Combattez le bon combat de la foi à laquelle vous avez été appelé, comme Timothée, et pour laquelle, pour certains, vous avez fait une belle confession de foi. Il y a aussi dans 2 Timothée, au chapitre 1, où l'apôtre Paul dit « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ, et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. » Et il parle à nombreuses reprises de cette image du combat, que lui-même, il combat pour les frères et sœurs, pour les églises, pour Timothée. Pour lui, c'est vraiment un aspect primordial, fondamental, indissociable d'une vraie vie avec le Seigneur. La vie spirituelle est un combat. Alors quand on lit ce passage, on pourrait quand même comprendre que Paul est soulagé, qu'il n'était pas sûr de réussir. Presque qu'il n'était peut-être même pas sûr de son salut. Il n'était peut-être pas sûr non plus que ce combat qu'on doit mener toute notre vie en tant que chrétien, eh bien, il allait le mener à bout. On a presque l'impression que c'est une lutte à l'issue un peu incertaine, difficile, et qui pousse un immense soupir de soulagement, comme s'il disait « Ouf, je suis arrivé au bout, après tant d'années de sacrifices, d'efforts, c'était pas gagné, mais j'y suis quand même arrivé. » Comme s'il disait « J'ai beaucoup travaillé, j'ai fait des efforts et des sacrifices toute ma vie, mais c'est bon, j'ai atteint l'objectif. » Mais je crois que ce n'est pas exactement ce qu'il voulait dire. Ce serait un peu comme dans les religions, où souvent on nous fait croire qu'à force d'efforts, de mérites, de pénitences, de sacrifices, de mortifications, de souffrances, on mérite une récompense de la part de Dieu. Comme si on méritait quoi que ce soit. Comme si Dieu prenait plaisir à nous voir souffrir et qu'il fallait mériter le paradis par une vie de malheur et d'abstinence. Ça rejoint un peu ce que Fabienne disait. Et souvent, les gens qui pensent ça, malheureusement pour eux, nous disent avec un grand soupir qu'il faut porter sa croix chaque jour. Et ils ont raison, c'est évangélique. C'est ce que Jésus dit dans Marc 8. Jésus dit à ses disciples, il ne dit pas à n'importe qui, à ceux qui veulent le suivre, à ses disciples. Si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un veut le suivre, eh bien qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et il ajoute même que celui qui voudra sauver sa vie la perdra, et que celui qui la perdra, à cause de lui, la trouvera. Alors est-ce qu'on est condamné à une vie de lutte, à une vie malheureuse, à une vie de sacrifice et de privation si on veut être les disciples de Jésus, si on veut le suivre et être agréable à Dieu? C'est une vraie question. Ben non, c'est même complètement faux, c'est même une hérésie, c'est une fausse doctrine, c'est l'exact opposé du message de l'Évangile. Le salut que Jésus offre à tous ceux qui veulent l'accepter et changer de vie, il est gratuit. Il est indépendant de notre mérite, de nos qualités, de nos efforts. et il est valable une fois pour toutes. Et ce qu'il nous offre, c'est une vie épanouissante, c'est une vie heureuse, en dépit de tout ce qui pourrait arriver. Et on n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit, de faire quelque effort que ce soit pour mériter. C'est même une illusion de croire qu'on doit mériter notre salut. C'est aussi une illusion de croire qu'on peut se reposer sur le souvenir nostalgique du jour de sa conversion ou de son baptême, et puis qu'on pourra montrer au Seigneur le certificat « J'ai été baptisé tel jour, c'est bon, je suis dans les règles ». Ou de lui faire le compte du nombre d'heures qu'on a passé sur les bancs de l'Église. Tout ça, Dieu s'en moque. La croix que Jésus a portée, c'est pas la condamnation pour ses péchés à lui. Il n'a pas porté le poids de ses fautes. Il n'a pas enduré le malheur pour je ne sais quelle purification. Ça, c'est l'idée religieuse de la mortification. La croix sur laquelle que Jésus a porté, et qu'on doit porter aussi, eh bien, pour lui, ça a été le combat ultime qu'il a mené par amour pour nous libérer de l'esclavage de notre mauvaise nature, pour nous offrir le pardon de nos péchés et transformer nos vies. Vous voyez la démarche, ce n'est pas une démarche de souffrance, c'est une démarche libératoire, c'est une démarche d'amour. Et plus qu'un combat, la croix, même s'il y a eu la souffrance, une souffrance immense, une lutte, un combat, mais plus que ça encore, c'est une victoire. C'est une victoire qu'il a remportée, une victoire totale, définitive, et dont la puissance agit encore dans la vie de tous ceux qui veulent bien l'accepter encore aujourd'hui, maintenant, ce matin. Et si on accepte son offre de pardon, on est sauvé seulement par grâce. C'est garanti, c'est automatique. Et de manière tout aussi automatique, si on est sauvé, eh bien on est appelé, nous aussi, à suivre son exemple et à porter cette même croix, à mener le même combat, par reconnaissance envers ce que lui a accompli pour nous. D'où le verset 25. Celui qui veut sauver sa vie, selon les critères du monde, selon ce qu'on nous impose comme conception de la réussite et du bonheur, selon notre propre nature, eh bien celui qui veut une vie comme ça, eh bien il rate sa vie. Il se trompe d'objectif. Il ne combat pas le bon combat. Le bon combat, c'est quand on semble effectivement perdre sa vie. Parce que, oui, on sacrifie peut-être sa réussite, son bien-être, ou toutes sortes d'autres choses à lesquelles on tient normalement. Mais pour servir le Seigneur, pour proclamer l'Évangile et le pardon, pour soutenir, pour encourager, pour aider tous ceux qui en ont besoin. Et ça, c'est un combat autrement plus rude que de faire une belle carrière pour sa propre réussite égoïste. Mais c'est le combat que le Seigneur veut qu'on combatte. C'est vraiment un engagement absolu. Et le plus incroyable, c'est que le Seigneur nous laisse libre de le prendre ou pas. Il nous laisse entièrement libre. Il faut qu'on fasse nous-mêmes cette démarche. Il faut qu'on ait nous-mêmes la persévérance nécessaire, faire les choix qui s'imposent, même si parfois ils sont difficiles. Mais ce qu'on sacrifie, ce qui nous semble si important quand on se trouve confronté à ces choix, eh bien on s'aperçoit en réalité que ça n'avait aucune valeur, que c'était nos désirs de toutes sortes de choses superflues et inutiles. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que le Seigneur ne va pas lui-même nous imposer ce que nous devons faire. Il appelle, il interpelle, et il attend notre réponse. Et c'est le combat que Paul a mené. Et il a tout sacrifié. Sa position, sa santé, tout. Et le soulagement qu'on entend dans le passage de Timothée, à mon avis, c'est plutôt celui de quelqu'un qui doutait de sa propre faiblesse, de sa propre volonté, de sa capacité à tenir ferme pour le Seigneur, mais qui, en regardant derrière lui, s'aperçoit que la puissance du Seigneur l'a utilisé, l'a mené là où il est, et constate que, oui, il a combattu le bon combat. Alors je vais vous donner un exemple, comme toujours strictement autobiographique et véridique. Dans l'église d'où je viens, il y a un frère qui s'appelle Jean. alors que je connais depuis que je suis tout petit, hein, ça fait au moins 35 ans. Il a toujours été là dans l'église, toujours le même, avec la même moustache, le même style vestimentaire. Il a été pasteur de l'église à deux reprises. Chaque fois que l'église avait besoin et d'un responsable et qu'il n'y avait personne, bien, il était là et il s'y collait. Et quand on trouvait un pasteur, pof, il se retirait. De la même manière pour le conseil. Quand il y avait besoin, il était membre du conseil. Quand il n'y avait pas besoin, il sortirait. Il était toujours disponible, toujours d'une grande discrétion. Il l'est toujours d'ailleurs, parce qu'il est toujours en vie. Et il parle presque jamais de lui, de ce qu'il vit. Moi, j'ai mis des années avant de savoir qu'il avait des enfants. Et parfois, oui, voilà, il parle un peu de ses problèmes pour demander la prière pour sa famille, ou il parle un petit peu de lui quand il prêche et qu'il témoigne de sa conversion pendant la guerre d'Algérie. Mais il ne va pas s'attendre à raconter sa vie, ses malheurs, tout ce qu'il a fait de bien. En fait, ça n'a pas d'importance. Et dans le civil, en dehors de l'église, je veux dire, eh bien, il a fait carrière dans la banque. Il a gravi les échelons, il a fini directeur d'agence. Il aurait pu se prévaloir de sa réussite sociale, mais il a toujours eu un train de vie modeste. Il a toujours vécu dans la même petite maison, dans un quartier périphérique de Charleville, avec un petit jardin pour se détendre de temps en temps, pas trop loin de l'église, avec même un petit bureau de 6 mètres carrés, presque une cellule de moine, avec une chaise, un bureau, un petit fauteuil pour recevoir un éventuel visiteur, et puis une grande bibliothèque rempli de littérature chrétienne. Et il y passait la moitié de son temps libre, chaque jour, tôt le matin, à lire et à méditer la parole, à prier. Alors par contre, il a toujours eu le dernier modèle de grosse berline de luxe de marque allemande. Vous le croyez? Non. Non, bien sûr que non. Bien sûr que non, il a toujours eu des petites voitures économiques. Sinon, ce n'était pas cohérent. Ça aurait été une vanité ridicule. Mais du coup, aux yeux du monde, et aux yeux de beaucoup de monde, c'était pas une grande réussite. C'est presque médiocre. Il était peut-être pas très doué. Alors que, et ça fait partie des choses que j'ai appris des années après peut-être des dizaines d'années après l'avoir connu, il était d'une famille aisée. Et pendant des années, je l'ai vu tous les dimanches au culte et chaque semaine en réunion. Et j'aurais jamais supposé qu'il faisait partie d'une famille qui avait du patrimoine immobilier et financier. Ça veut dire s'il ne se mettait pas en avant. Et j'ai su ça uniquement parce que, dans mon cadre professionnel, j'ai eu affaire à son beau-frère comme client, qui lui a dit que il était vraiment satisfait de mon travail. Et Jean tout fier qui lui dit que je fais partie de l'Église et que je suis chrétien. Et quand Jean me raconte ça, parce que je n'étais pas du tout au courant, il ajoute que pourtant, ce beau-frère, mais c'est une plaie, toujours en train de critiquer, de mépriser. Et quand on voyait l'expression du visage de Jean, qui pourtant est toujours très calme, très pondéré, mais quand on voyait la souffrance, on imaginait les interminables repas de famille où il devait supporter l'arrogance de cet homme, et apparemment d'une grande partie de la famille, et puis lui-même, il devait en prendre pour sa part. Et ça devait être terrible. Et j'avais bien vu effectivement que ce beau-frère avait un mépris incroyable pour les autres, alors que toute sa réussite à lui, c'était d'avoir hérité de quelques gros immeubles dans une petite ville de province en plein déclin économique et social. Inutile de préciser qu'il n'était pas chrétien. Donc, est-ce que Jean a raté sa vie? C'est clair. Ah, c'est sûr. C'est sûr. En plus, si vous comptez, en dehors de l'aspect financier, mais tout le temps qu'il a consacré à l'Église, à écouter les uns, les autres, à conseiller, à encourager, souvent les mêmes personnes pendant des années, souvent en pure perte, à chercher des solutions, à donner de sa personne, à être critiqué, à souffrir. Et en plus, comme si ça ne suffisait pas de toutes ses occupations, pendant des années, il a pris en charge ce qu'on appelait télévie. C'était à l'époque où il y avait encore des cabines téléphoniques et des téléphones filaires, il n'y avait pas de portable. Et ce système télévis, c'est-à-dire qu'il pouvait être appelé à n'importe quelle heure du jour et de la nuit chez lui, un numéro gratuit par toute personne en détresse. Et il en a eu des nuits sans sommeil, et il en a entendu des horreurs et des choses tragiques. Qui accepterait ça? Et pourquoi? Quel temps, quelle énergie perdue? Pourquoi? À tel point que, quand j'étais étudiant, et qu'il me demandait de prêcher, alors que moi je lui disais que j'avais rien à dire, j'étais trop jeune, j'étais bête. Vous ne réagissez pas, hein, c'est terrible. Et donc voilà, il me demandait, mais... Et puis moi, je discutais avec lui pour savoir ce qu'il attendait, ce que c'était que la responsabilité d'un pasteur. Et puis il me racontait un petit peu comment ça se passait. Et maintenant, je sais qu'il ne me racontait pas la moitié. Et moi, je lui répondais, ah, mais non, jamais. Jamais je serai pasteur. C'est un travail de fou. De toute façon, je serais incapable de supporter le dixième de ce qu'il vit sans exploser et envoyer tout balader. Et ça, ça l'attristait. J'étais jeune, j'étais bête. Demandez à Fabienne et la dédossier. Mais ça, c'est une grande règle de base avec le Seigneur. Ne jamais dire jamais. Regardez tous ceux que le Seigneur envoie pour une mission quelque part et qui refusent, qui partent de l'autre côté, de Moïse à Jonas. Mais ils finissent toujours par y aller. Sinon, ils ratent leur vie. Sinon, ils ne combattent pas le bon combat. C'est comme si Dieu disait en souriant, « Ah, mais ça tombe bien. Ça tombe bien que tu ne veuilles pas aller là-bas. Parce que c'est justement là que je vais t'envoyer. Alors, t'y vas ou t'y vas pas ? T'es cap, t'es pas cap. Tu me fais confiance ou pas ? Après, si vous voulez vraiment esquiver, faites celui qui n'a pas entendu. À vos risques et périls. Hein. Il y en a qui ont essayé. Ils ont eu des problèmes. Et je me rappelle donc, entre autres bons conseils que Jean me donnait, de ne pas trop m'investir dans le travail, de ne pas m'encombrer avec des projets immobiliers. Ah, j'étais absolument d'accord avec lui. Complètement. Mais je m'en faisais que ma tête. Mais lui, il a toujours été là pour moi. Il m'a baptisé, il m'a marié, de nombreux autres. Et notamment, quand j'ai eu besoin d'aide, à quelques reprises, et en particulier face à un problème qui se posait dans l'église de Charleville, et là, face à ce problème, j'aurais encore eu tendance à jouer les catcheurs, hein, parce que c'était inacceptable, eh bien là, je lui ai demandé conseil. Je lui ai exposé la situation. Je me suis rendu compte qu'il la connaissait bien mieux que moi. Et sa réponse a été toute simple. On va prier. Moi, je m'attendais à ce qu'ils disent, mais t'as raison, vas-y, fonce dans le tas, attaque. Ou alors peut-être qu'ils me disent, à la rigueur, tais-toi, t'as tort. Mais au moins, c'était clair. Et je pense qu'il était plutôt d'accord avec moi, mais il ne l'a jamais dit. Après, son comportement prouve qu'il approuvait. Mais pas de jugement, pas d'opinion de moi, Jean, je pense, du haut de ma sagesse et de mon intelligence, que sa réponse était, on va prier. Alors depuis, j'essaie de faire comme lui. Hein. De toute façon, moi, je n'ai pas la solution, donc on va prier. Et ça, c'est super, ça marche à tous les coups. Ça marche à tous les coups parce que le Seigneur ne rejette pas celui qui se tourne vers lui. Donc on a prié, on a demandé l'intervention du Seigneur. Et par la suite, je me suis aperçu que la situation n'avait absolument pas changé. Rien. Mais ce qui avait changé, c'était moi. C'était mon attitude. C'était ma disposition de cœur. J'étais plus dans la colère. J'étais plus dans la révolte et dans l'envie de catch. Je faisais confiance au Seigneur. Et ça, c'était un grand changement quand même. Je me suis impliqué encore davantage dans la prière, dans la présence à l'église, avec toute l'énergie qu'on peut puiser dans une certaine colère, mais sans les mauvaises motivations et l'énervement qui l'accompagne. Et j'ai persévéré, et j'étais convaincu que le Seigneur allait agir, sans savoir ni comment, ni quand, parce qu'il n'y avait aucune solution. Et plusieurs mois après bien des péripéties, d'un coup, le problème a disparu. Et l'Église est sortie plus forte de cette épreuve, parce que la difficulté que je rencontrais, beaucoup d'autres membres le rencontraient aussi. Et ils ont eu certainement la même attitude. Et Jean, dans cette situation particulière, a été d'un très grand secours. Sans lui, est-ce que l'Église s'en serait sortie ? Peut-être. Et donc j'en passe. Quand une nouvelle personne inconnue rentre dans l'Église, qui est-ce qui va vers elle pour l'accueillir avec une simplicité toute évangélique ? C'est Jean. Quand il y a un nouveau converti qui commence sa vie avec le Seigneur, qui est-ce qui est là pour l'encourager, pour l'entourer paternellement et prier avec ? Encore Jean. Quand il y a une décision importante à prendre et qu'on a besoin de conseils, que le conseil d'église a besoin de conseils, qui est-ce qu'on va voir ? Toujours Jean. Et encore aujourd'hui, alors qu'il a plus de 80 ans, qu'il a toujours la même moustache, c'est Jean qu'on va voir. Et son engagement avec le Seigneur est total, radical. C'est pas un fanatique, c'est pas un radicalisé, mais c'est absolu. Ou alors c'est un extrémiste de la compassion et de l'amour du prochain. Alors, est-ce que Jean a raté sa vie? Ah non, là non. Au contraire, quelle réussite, quel témoignage de la présence de Dieu dans sa vie, quel beau combat il a mené, alors qu'il a tout sacrifié, tout ce que le monde prône comme signe extérieur de richesse et de réussite. Il n'a pas eu une grosse voiture, une grosse maison, une femme exceptionnelle, des enfants, le chien, tout ça dans cet ordre de priorité. Il n'a pas suivi tout ce qu'on nous propose comme modèle à suivre pour réussir notre vie. Alors que quand on suit ce modèle-là, de toute façon, et qu'on a tout sacrifié à sa réussite, selon le monde, eh bien on se retrouve souvent vide, seul et malheureux. Jean, lui, s'est retrouvé avec une belle église, heureux et entouré de plein de personnes reconnaissantes. Je ne veux pas dire que le travail, la réussite, soit mauvais en soi. Il faut bien vivre. Mais ça n'a aucune valeur. Et ça nous fait même perdre un temps précieux et ça nous fait rater l'appel et le combat qu'on doit mener si on en fait le but ultime de notre vie, le sens de notre vie, ce qui nous définit en tant que personne. C'est pas ça du tout. Jean, pour revenir à lui, il a travaillé honnêtement pour subvenir largement aux besoins de sa famille, mais en réalité, le vrai but de sa vie, sa vraie mission, son vrai combat, mais c'était d'être au service du Seigneur, H24, prêt à toute bonne œuvre, à toute occasion, plein de zèle, de joie pour le service et l'amour des frères et des sœurs. C'était un vrai disciple. C'est un vrai disciple. C'est un soldat de Christ. Et c'est ce qu'on lit dans 2 Timothée au chapitre 2. Il a vraiment lutté comme un bon soldat de Jésus, sans s'embarrasser des affaires de la vie pour plaire à celui qui l'a engagé, à celui qui l'a appelé, à celui qui l'a sauvé au prix de la croix. Et il fait partie aussi, comme dit le texte, de cette longue chaîne de témoins fidèles qui confient ce qu'ils ont reçu à des personnes capables de l'enseigner à d'autres. Et ça, c'est beau. Il y a vraiment quelque chose de fort là-dedans. Et c'est pas non plus par hasard que Jean parlait si peu de lui. Parce que, en fait, c'est exactement ce qu'on peut lire dans la parole. Notamment donc dans 2 Timothée, toujours, au chapitre 2, au verset 23. Et ça fait partie de ces conseils fondamentaux que le vieux apôtre Paul donne au jeune disciple Timothée. On va dire que je suis le vieux et que là-bas, il y a tous les jeunes disciples. Donc, recevez ça. Hein. Lui, il lui conseille de repousser les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Et il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Et que revenu à leur bon sens, ça du bon sens spirituel, eh bien ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Il faut bien prendre conscience de ce qui est en jeu. Ils se dégageront des pièges du diable. C'est-à-dire que le but, c'est d'amener le plus grand nombre à la connaissance de la vérité, à Jésus, à la croix. Et pour tout ça, c'est inutile de discuter. Il faut parler, mais ce n'est pas la peine d'argumenter, de débattre, d'essayer d'avoir raison à tout prix. Ce qu'il faut, c'est témoigner la bienveillance, l'amour que Dieu met dans notre cœur. Et c'est le Saint-Esprit qui convainc. Il y a aussi un autre combat à mener. Il faut aussi se battre contre soi-même. Ça, c'est une drôle d'idée. Il faut se battre, combattre notre mauvaise nature. Parce que même si on est lavé de tout péché, totalement justifié, et ça, on ne revient pas là-dessus, parce qu'autrement, l'ennemi en profite pour nous accuser, pour nous mettre à terre, nous faire trébucher avec le doute. Et croyez-moi, c'est un catcheur hors catégorie. Donc, il ne faut pas lui laisser prise. Mais même, bien qu'on soit gracié, pardonné, eh bien, malheureusement, on a une fâcheuse tendance à retourner à notre ancien moi, si on ne conserve pas vraiment les yeux fixés sur Christ. Et le meilleur moyen de se garantir de ça, eh bien, c'est de se dépouiller soi-même. Il ne s'agit pas de renoncer à la vie, à tout ce qui nous plaît pour mener une vie plate et ennuyeuse, comme disait Fabienne tout à l'heure. faites de règlements, d'interdictions. Ça, encore une fois, c'est la religion, ça. C'est pas la foi. Et rappelez-vous ce que dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens. Il nous dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne vais pas me laisser asservir par quoi que ce soit. En fait, il y a des choses inutiles, indifférentes, et il y en a d'autres, nuisibles, qui nous rendent esclaves. Et encore une fois, c'est à nous, c'est à vous les jeunes là-bas, de faire le tri entre ce qu'on vous propose, tout le buffet garni qu'on met devant vous, et savoir ce qui est bon pour vous, ce que vous pouvez prendre et ce à quoi il faut renoncer, parce que de toute façon, déjà c'est toxique, et puis ensuite c'est superflu, et c'est embarrassant. Il faut se dépouiller soi-même. Et ça aussi c'est un combat. Et chacun pour soi, j'ai envie de dire, chacun dans le domaine où on est faible. Mais il faut... Chacun dans le domaine où on est faible, voilà. Et le Seigneur veut nous voir faire cet effort de rejeter tout ce qui n'est pas de lui, de faire cette démarche. Parfois même, il se contente juste du désir sincère de bien faire. Et là, il vient à notre secours. Parce que de toute façon, on est bien trop souvent incapable de lutter jusqu'au bout. Mais lui, il nous donne la victoire. Il nous demande cette démarche. Et ensuite, on est tous surpris de voir qu'on a la fermeté nécessaire pour avancer. Et ça, c'est ce qu'on lit dans Éphésiens 4, au verset 20. Mais vous, et il parle aux disciples, ce n'est pas ainsi. Parce qu'avant, il a parlé de l'homme qui vit selon les passions mauvaises, les critères du monde. Donc vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu. J'aime bien cette petite parenthèse. Si vous avez vraiment entendu, si vous avez vraiment compris, si vous n'avez pas fait semblant. Ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu. Et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruit. Instruit à quoi ? Verset 22. À vous dépouiller, eut égard à votre vie passée, à cause de votre vie passée. À cause de ce qu'on a fait quand on ne connaissait pas le Seigneur. À vous dépouiller du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses et à être renouvelé, transformé. Dans le texte, c'est le mot qui a donné métamorphose. On pourrait dire à être métamorphosé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Vous voyez, en fait, tout l'enchaînement. C'est pourquoi, nous dit le verset 25, renoncez, encore du renoncement, renoncez au mensonge, et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas de prise au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais, s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Chaque mot compte. C'est le Saint-Esprit qui est le sceau de garantie pour le jour de la rédemption, pour le salut. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Jésus nous pardonne et nous sauve, encore une fois, il suffit de l'accepter. Mais notre part, en retour, eh bien, c'est d'être cohérent avec cette nouvelle vie qu'il nous offre, de renoncer volontairement, de toute notre volonté, de toute notre force, à ce qui ne le glorifie pas. Et c'est aussi donc sur ce front qu'il nous demande de combattre. Sinon, si on cédait toujours au péché sans la moindre résistance, en se disant que, de toute façon, Dieu est tellement bon, il pardonne. Ça, c'est très spirituel. Ce serait quelle ingratitude, quelle paresse spirituelle plutôt, quelle faiblesse. Alors que, en Christ, on a tout ce qu'il faut pour remporter la victoire. Et je suis sûr Et ça, je le dis avec toute la compassion possible. Je crains fort que de nombreux chrétiens vivent une vie spirituelle laborieuse et triste, de privation, pour ne pas dire médiocre, faute de le vouloir, faute de s'engager fermement avec le Seigneur et de se laisser conduire et de se laisser travailler, dépouiller de ce qui ne glorifie pas le Seigneur dans leur vie. Et il suffirait de faire ça pour accéder à une vie bien plus belle, à entrer pleinement dans les combats, dans les plans de Dieu pour eux, au lieu de se contenter de petits morceaux de la quantité immense de bénédictions que Dieu en réserve. Parfois, certains se privent eux-mêmes. Et ça, il faut vraiment en prendre conscience. Et ce dépouillement, hein, pas juste de l'ascétisme, hein, mais ce dépouillement de tout ce qui n'est pas utile, tout ce qui n'est pas bon, eh bien, il doit aller jusqu'à la consécration. C'est un grand mot, mais c'est tout simple. Le peuple de Dieu doit être saint, comme Dieu est saint. Il n'y a pas grand-chose à rajouter. C'est une exigence absolue et non négociable. Et il y a un signe certain de cette consécration, eh bien c'est l'amour fraternel. Et on voit ça dans Jean, au chapitre 13 et au verset 25. C'est Jésus qui dit à ses disciples, à tous ceux qui veulent le suivre, « C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que l'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. » C'est aussi simple que ça. Et ça, ça se voit aussitôt. Moi, souvent, j'aime bien voir les gens qui rentrent dans la salle, parce que la première fraction de seconde où on voit l'expression du visage, où on voit la posture, où on voit la... Eh bien, on sent. On sent si c'est une personne qui est remplie... Enfin, de quoi la personne est remplie, si vous voyez ce que je veux dire. Et ça rate jamais. Et des fois, on se dit, ah, lui, je le connais pas, j'ai jamais vu lui ou elle. Jamais vu... ça peut être un étranger, on n'a rien du tout en commun, et pourtant, on sent tout de suite qu'on a le même esprit, qu'on est les enfants du même Père. Et enfin, le combat, j'en suis au petit 2 du grand A. Le combat, c'est aussi de se battre pour les autres, parce que c'est bien beau de se battre contre soi-même, ça va un temps, il faut le faire, mais une fois que c'est fait, il faut passer à la pratique, il faut agir. Et le combat, c'est aussi se battre pour les autres, spirituellement. Celui qui ne connaît pas Dieu, celui qui n'a pas été touché, même s'il a des connaissances religieuses, même si c'est un enfant de chrétien, seconde génération, tout ce que vous voulez, eh bien, il est aussi incapable de se tourner vers le Seigneur que les paralytiques qu'on amenait à Jésus pour qu'il les guérisse quand il était parmi nous. Eh bien, eux, les paralytiques étaient incapables de venir d'eux-mêmes pour être guéris, même s'ils le voulaient. Il fallait qu'il y ait des personnes qui les portent, il y en a même qui ont cassé un toit pour le descendre au pied de Jésus, pour que le Seigneur puisse les guérir. Eh bien, il faut bien prendre conscience qu'on est environné de personnes qui sont paralysées spirituellement et qu'il faut vraiment porter, mais jusqu'au pied du Seigneur, pour que le Seigneur les guérisse. Et notre combat, lorsqu'on prend conscience de ce qui est en jeu, de cet enjeu vital, crucial, eh bien, c'est de lutter spirituellement dans la prière et avec l'amour pour ceux qui n'ont pas la force d'aller vers le Seigneur. C'est ce qu'on lisait dans Timothée. On doit redresser même les adversaires, même les ennemis, même ceux qui sont hostiles, avec douceur, avec espérance que Dieu leur donnera la repentance. C'est marqué que c'est Dieu qui donne la repentance, ce n'est pas nos arguments. Afin qu'eux aussi parviennent à la connaissance de la vérité. Et c'est là qu'ils se dégageront des pièges du diable. Et c'est là qu'ils seront libérés. Et c'est là qu'ils seront sauvés. Et c'est vraiment ce combat pour la délivrance des âmes et des vies qui sont réduites à la souffrance et au malheur par celui qui veut leur perte, qui veut leur destruction. Et je ne sais pas si vous sentez la dimension tragique qu'il y a lorsqu'on pense à toutes ces personnes qui ont désespérément besoin du Seigneur, qui ont soif, qu'ils cherchent partout, nulle part, sauf là où elles pourraient le trouver. Et ça, c'est tragique. Et c'est là qu'on a un combat à mener. Et moi, personnellement, je suis de plus en plus révolté, hein, par cette... c'est un peu comme la brute là qui maltraitait l'autre élève au collège, mais c'est d'une dimension tellement plus terrible. Je suis révolté par cette espèce de violence malfaisante de l'ennemi qui réussit à maintenir dans l'esclavage, dans la souffrance, dans le malheur, tant de personnes durant toute leur vie, qu'ils empêchent même juste de relever la tête pour appeler Dieu au secours, parce qu'il les maintient dans le désespoir le plus total. Et ça, c'est insupportable. Et là, il faut se battre. C'est révoltant. Et le mal, c'est un scandale inacceptable. Et je dirais même que ça doit le rester. C'est incompréhensible. Ça doit le rester parce que si on commence à trouver des raisons, des explications, à comprendre, eh bien, on sombre dans le fatalisme. Il faut rester dans la révolte. Après, l'important, c'est ce qu'on fait, comment on agit. Est-ce qu'on est bien content quand les problèmes, les épreuves, la souffrance ne tombent pas sur nous, on se réfugie dans notre petit confort égoïste, ou bien on baisse les bras et puis on ne fait pas de vagues pour rester discret? Il y en a qui le font. Hein. Ou bien on sombre dans l'amertume et le cynisme, et ça se voit aussi. Ou alors, on se lève pour se battre, pour rejoindre l'espèce de résistance spirituelle qui refuse vraiment l'inacceptable et qui sait que malgré les combats, les coups qu'on va prendre et le prix qu'il y a à payer, eh bien la victoire est certaine. Et que c'est ça ce qui donne le sens à une vie, c'est ce qui en fait la vraie réussite, c'est de se battre en suivant le Christ, de mener le bon combat fidèlement et jusqu'au bout. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, personnellement, mais je crois que c'est une fausse alternative. On n'a pas vraiment le choix. Et il faut, nous aussi, ne pas se tromper d'ennemi. L'ennemi, ce n'est pas les autres. Ce n'est pas même celui qui est hostile à la foi. L'ennemi, le combat, il est spirituel. Et c'est ce que nous dit Éphésiens au chapitre 6 et au verset 12. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ça peut sembler abstrait, un peu mystique. Il faut juste comprendre qu'il y a une réalité spirituelle qui nous dépasse et que l'enjeu, le combat, se mène à ce niveau-là. Et je vous assure, entre parenthèses, que quand vous vous intéressez un peu aux personnes, que vous voyez ce qu'elles vivent, dans les familles, dans les vies, dans leur vie de tous les jours, le désespoir et le mal qui les détruisent, eh bien vraiment, ouais, le combat est spirituel. Et ce combat, c'est quelque chose qu'on doit mener ici et maintenant. C'est du concret. C'est une urgence vitale. Et les armes pour le mener, elles sont spirituelles. Dans 2 Corinthiens au chapitre 10, verset 4, l'apôtre Paul nous dit juste que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines. C'est pas moi, avec ma force, avec mes raisonnements, avec ma persévérance. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines. Mais elles sont puissantes, grâce à Dieu, pour renverser des forteresses. Et vous voulez savoir comment renverser des forteresses ? Eh bien, c'est encore dans Éphésiens 6. Et c'est autour du verset 12, c'est juste à côté. Parce que l'apôtre Paul, lui, est très pratique. Il nous dit ce qu'il faut faire et comment on peut y arriver. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, c'est là qu'on a une démarche à faire, il faut les prendre. Prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout ça le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Et prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, une fois qu'on est équipé comme ça, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. pour tous les frères et toutes les sœurs. C'est ça le combat. C'est ce bon combat qu'il faut mener avec persévérance, envers et contre tout, toute notre vie et jusqu'au bout. Parce que ce qui a du prix aux yeux de Dieu, ce qui donne un sens même d'ailleurs à toutes les épreuves qu'on peut endurer, à toutes les souffrances qu'on aurait pu avoir, eh bien c'est qu'on conserve la foi par laquelle, rappelez-vous, nous avons l'assurance de la victoire. Et pas juste une victoire symbolique dans un paradis lointain, un jour peut-être. Non, la victoire elle est ici et maintenant, dans nos vies, dans celles que nous aimons. Et c'est ça vraiment la ligne directrice, le combat qu'il faut mener. C'est toute une vie de lutte, je dis ça pour les jeunes, bon courage, toute une vie de lutte et de combat, mais avec la victoire finale si vous persévérez et si vous restez fidèles. C'est toute une vie de sacrifice et de privation, mais de ce qui n'a aucune valeur en regard de ce que Dieu nous offre. Et c'est une vie belle, féconde, épanouissante. Et c'est uniquement quand on réalise, ça, quand on réalise que Dieu veut nous voir mener ce combat, Dieu veut nous voir nous engager à notre niveau, là où on se trouve, peu importe. Et c'est à ce moment-là qu'on prend la mesure de ses projets pour lui. C'est quand on fait le nécessaire pour se mettre à son entière disposition, qu'on fait le ménage, qu'on est clean, mais c'est là qu'on voit sa puissance agir vraiment dans nos vies. Et bien plus, et bien au-delà de tout ce qu'on pourrait imaginer et même espérer. Et ça, ce n'est pas des paroles en l'air, hein. Ce n'est pas de l'enthousiasme du dimanche matin. C'est une promesse, c'est dans la parole, c'est dans Éphésiens 3, à partir du verset 14. Et on nous dit, « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans son amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, et ça, gardez-le en tête, celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, eh bien, à lui soit la gloire. Dans l'Église, en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Amen.
Amen.
Amen. Je propose qu'on prie pour terminer un peu ça. Est-ce que quelqu'un veut prier? Autrement, je le fais. 1, 2, 3, trop tard, je le fais. Non? Allez, involontaire.
Merci Seigneur de nous aider à être vraiment centré sur ce qui est important, à être centré sur toi, à attacher de l'importance aux choses d'en haut et pas aux celles d'en bas, à celles d'en bas. Et merci parce que on est libre en toi, tu nous donnes la vie et tu nous renouvelles, tu nous donnes les directives pour qu'on puisse être épanoui. Merci parce que tu nous aimes d'un amour inconditionnel. Merci parce que tu es un Père aimant. On veut vraiment vivre chaque jour avec toi. Te louer, te remercier pour qui tu es, pour notre identité en toi. Amen.
Amen. On va chanter un dernier chant, je crois. Eh bien, chantons.